Dès lors, la femme bénie entre les femmes n'intervient pas inutilement. Elle a sa place nécessaire dans cette réconciliation. Nous avons besoin de médiateurs pour aller au grand médiateur, et nous nous saurions en trouver de plus efficace que Marie. Extrait du sermon de Saint Bernard de Clairvaux sur la Vierge Marie.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au XIIe siècle, la chrétienté occidentale va connaître un mouvement nouveau, en tout cas rénovateur, réformateur, qui essaye de retrouver les racines premières du monachisme. Il s'agit de l'ordre des cisterciens. À l'origine de cet ordre se trouve Robert de Molesme. Né en 1029, il était moine bénédictin. Et en 1098, il fonde, au sud de la ville de Dijon, en Bourgogne, le monastère de Citeaux, sur les terres du vicomte de Beaune. Il est accompagné alors de 21 frères. À ses yeux, il s'agit d'essayer de retrouver la pureté des origines du monachisme bénédictin. C'est-à-dire retrouver l'essence de la règle Saint-Benoît. L'ascétisme, la rigueur, le dépouillement liturgique, la valorisation du travail et bien sûr une véritable vie communautaire. Il va essayer dès lors de commencer à propager son renouveau, sa réforme. Et l'abbaye de Citeaux va essayer justement de créer d'autres abbayes. Il y a une première abbaye-fille en 1113 à La Ferté. Là se trouve un homme qui va jouer un rôle considérable, c'est Bernard. Il va être envoyé avec 12 compagnons pour fonder l'abbaye de Clairvaux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette volonté de retour aux origines est en fait une réaction face aux méthodes clunisiennes. Effectivement, l'abbaye de Cluny, qui avait été fondée en 910 et qui avait créé un véritable empire à la fois spirituel, économique, politique dans toute la chrétienté, eh bien, aux yeux de ses frères qui avaient suivi Robert de Molesme et qui vont suivre donc Bernard, eh bien, ont le sentiment que Cluny s'est enrichi de manière trop forte, que Cluny a abandonné ce qui faisait l'essence du monachisme bénédictin. Et que donc, c'est aussi en réaction contre Cluny que va se créer l'ordre de Citeaux. D'ailleurs, il est indéniable que Bernard a été un procureur extrêmement important contre Cluny. Il y a un passage célèbre qui est un texte attaquant frontalement l'art clunisien, les méthodes de vie des Clunisiens, cet argent dépensé pour honorer les cloîtres, pour les décorer, pour les orner de chapiteaux où se trouvent des animaux, des scènes de chasse, des bestiaires. Alors que finalement, comme le dit Bernard lui-même, au moins on doit regretter l'argent qui fut dépensé. Donc il y a bien une volonté d'essayer de retrouver un esprit qui aurait été abandonné par Cluny. Succès de l'ordre clunisien a été important au Xe, XIe siècle. Il commence donc à être contesté au XIIe. Et ce sont donc les cisterciens qui reprennent quelque peu le flambeau des créations d'abbayes. Entre 1151 et 1300, on compte 375 abbayes cisterciennes, dont 75 pour le seul royaume de France. Et là se joue évidemment l'influence et le prestige de Bernard de Clairvaux. Celui-ci est né en 1090 dans une famille de la noblesse bourguignonne. Il avait fait ses études à l'école canoniale de Châtillon-sur-Seine et était entré à Cîteaux en 1112. Il avait fondé 3 ans plus tard l'abbaye de Clairvaux et il en était resté l'abbé jusqu'en 1153, date de sa mort. Et Clairvaux a essaimé véritablement en donnant naissance à 68 abbayes. Et Bernard, qui veut se détacher justement de Cluny, obtient en 1132 du pape Innocent II l'indépendance de Clairvaux vis-à-vis de Cluny. L'influence et les écrits de Bernard de Clairvaux sont considérables. Il va effectivement non seulement attaquer les pratiques clunisiennes, mais il va également écrire un De officiis episcoporum sur la conduite des évêques, qui veut guider la conduite des évêques, c'est-à-dire améliorer leur manière de vivre et d'être, suivant en cela la réforme grégorienne. Il va développer le culte marial, mais attention, il est opposé au principe de l'Immaculée Conception car il ne croit pas que la Vierge ait été Immaculée Conception. Il intervient en faveur du pape Innocent II lorsqu'il y a une tentative d'un schisme par un certain Anaclet en 1130-1139. Il pousse à l'organisation de l'ordre du Temple qui est fondé en 1124. Il prêche enfin en faveur de la deuxième croisade le dimanche de Pâques 1146 devant le roi Louis VII à Vézelay. C'est un homme qui a parcouru la chrétienté, un véritable héros de Dieu, un athlète de Dieu, pour reprendre une formule que l'on a employée à propos de plusieurs saints. Mais c'est aussi un être entier qui a des fois des difficultés, indéniablement, à faire preuve de mansuétude vis-à-vis de ses adversaires, et Abélard en fit les frais. Mais il faut s'interroger aussi sur le succès des cisterciens. Pourquoi, au XIIe siècle, les cisterciens semblent connaître véritablement pendant un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle, une véritable ferveur. Pourquoi la société chrétienne semble s'intéresser à cette volonté de renouveau? Tout simplement parce que la spiritualité est en train sans doute de changer. Cluny avait dû sa grandeur, son succès, au fait que les Clunisiens priaient pour tous ceux qui ne priaient pas, priaient pour ces grandes familles à qui l'on confiait les prières pour les morts. Et d'ailleurs, la fête des morts pour le 2 novembre est issue des milieux clunisiens. Or, ce qui se passe au XIIe siècle, c'est que les élites chrétiennes, car il est très difficile de parler pour la totalité de la chrétienté, il est très difficile de connaître pour le XIIe siècle ce que pensait le tréfonds des masses paysannes, mais pour les élites chrétiennes du temps, eh bien, elles veulent un retour à la pureté. Elles veulent plus de vérité dans la manière d'être. Et sans doute que Cluny avait du mal à répondre à cette volonté de cette élite chrétienne qui recherchait une véracité, une origine, une pureté. En cela, Saint Bernard et les cisterciens ont sans doute répondu à cette attente. Mais il y a également un piège, parce que nous sommes aussi dans une société féodale à laquelle appartient l'ordre de Cîteaux. C'est-à-dire que les cisterciens ont participé au système seigneurial. Les monastères cisterciens étaient eux-mêmes seigneurs. Ils avaient des exploitations agricoles et ils se sont finalement enrichis. Il est vrai que quand on visite des grands monastères cisterciens, pensons à Fontfroide ou au Toronnet, eh bien, il y a effectivement, par rapport à l'art clunisien, une volonté de sobriété. Mais par contre, quand on regarde les granges cisterciennes, eh bien, les granges cisterciennes qui se trouvent dans les campagnes sont véritablement des cathédrales où l'on entreposait les récoltes et les richesses dues au travail des cisterciens et des paysans qui travaillaient pour leurs abbayes. Et il y a donc un piège, celui de cette propre richesse dont ils se méfiaient aux origines, qui s'est quelque peu refermée sur eux. Et puis il y a un autre élément qui va jouer en faveur d'autres ordres religieux. C'est que, au début du XIIIe siècle, la spiritualité chrétienne, là aussi, évolue par l'urbanisation de la chrétienté. Bien sûr, la grande majorité de la population chrétienne est rurale, mais il y a, à la fin du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, une formidable expansion des activités urbaines. Les villes grandissent. Or, ce sont des villes où les élites veulent qu'on leur parle du Christ, qu'on vienne vers eux. Or, le monachisme clunisien, comme d'ailleurs le monachisme cistercien, eh bien finalement, est replié dans les campagnes. Il est fermé un peu sur lui-même, il faut aller vers lui, et ce n'est pas lui qui vient spontanément vers les autres. En cela, il va y avoir une nouvelle réforme, une nouvelle nouveauté qui va modifier profondément le christianisme médiéval, et d'ailleurs bien au-delà de l'époque médiévale. C'est ce que vont apporter François d'Assise, Dominique de Guzman avec les frères prêcheurs, c'est-à-dire avec des hommes qui vont aller vers leurs frères pour leur parler de Dieu, pour leur parler de l'Évangile et pour leur parler du Christ. Ah, ils ont ainsi répondu aux souhaits, sans doute, d'une grande partie de la société chrétienne, et de ce point de vue-là, bénédictins et cisterciens avaient du mal à y répondre.